King Nomad.
Bienvenue à Sous l'influence des livres, volet rimousquois de Parking Nomade. Ici Martin Robitaille. Je m'entretiens aujourd'hui avec Catherine Gosselin. Bonjour Catherine.
Bonjour Martin.
Alors, ensemble, nous allons discuter d'un sujet qui nous tient tous les deux à cœur, la crise du roman. Mais de quelle crise parle-t-on? En fait, nous allons remonter à la crise du roman au tournant du 19e, 20e siècle. Alors, c'est une époque de l'histoire littéraire en France que nous abordons, qu'on appelle communément l'époque donc de la crise du roman. Catherine, pouvez-vous nous expliquer d'où vient cette expression et à quoi tient cette fameuse crise du roman?
Oui, tout d'abord, l'expression elle-même, c'est une expression qui a été consacrée par un ouvrage de Michel Raymond, qui est paru il y a quelques années déjà, mais qui a fait date vraiment. Donc, un ouvrage qui est paru en 1968 et qui s'intitule « La crise du roman, des lendemains du naturalisme aux années 20 ». Donc, dans cet ouvrage, Michel Raymond fait une véritable et très vaste, c'est un ouvrage qui fait près de 500 pages.
Oui.
Donc, Michel Raymond fait une véritable enquête sur la situation du roman au tournant du 20e siècle jusque dans l'après-Première Guerre mondiale. Donc, il étudie évidemment beaucoup les romans de cette époque, mais il étudie aussi énormément les discours sur le roman qui ont été produits à cette époque. Cette époque, l'époque dont on parle, le tournant du 20e siècle, c'est effectivement une époque au cours de laquelle on a énormément parlé du roman, au cours de laquelle on s'est beaucoup questionné sur la forme qu'il doit prendre, sur son sens, sur sa pertinence dans le monde contemporain, etc. Toutes sortes de questionnements de ce type.
Oui.
On peut, peut-être pour remettre un petit peu les choses en contexte, se rappeler que le 19e siècle, en France, c'est le grand siècle du roman.
C'est tout à fait
le grand siècle au cours duquel le roman s'est affirmé, au cours duquel il a vraiment pris sa place.
L'âge d'or du roman.
C'est l'âge d'or du roman français, voilà. C'est le siècle, en fait, dans lequel le roman est devenu le premier grand genre littéraire. Et si on remonte encore un petit peu, il faut rappeler qu'au 18e siècle encore, le roman était considéré comme un genre mineur.
Oui, donc c'est mineur.
Il faut se le rappeler parce que ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais au 18e siècle, c'était le cas. C'était plutôt la tragédie qui était considérée comme le grand genre noble des lettres. Pour être un grand écrivain, il fallait faire de la tragédie. Et c'est au 19e siècle, donc, que tout ça s'est transformé. Au 19e siècle, des écrivains comme Balzac, Flaubert, Zola ont montré que le roman était vraiment un art à part entière, un art qui peut atteindre une profondeur de sentiment, de réflexion, de vision, tout un style aussi qu'on pouvait développer dans le roman. Et ils nous ont montré aussi que le roman était un art qui pouvait être lu massivement par un nombre toujours croissant de lecteurs. Donc, c'est vraiment à cette époque que le roman s'est affirmé et s'est imposé comme le genre littéraire dominant, ce qu'il est encore aujourd'hui. C'est encore le genre qui est le plus massivement publié, le genre le plus massivement produit.
Deux siècles plus tard.
Oui, tout à fait. Mais donc ça, c'est pour le 19e, mais on arrive à la période qui nous intéresse. À la fin du 19e siècle, il y a un certain épuisement du genre qui s'est fait sentir après les grands succès qui ont été obtenus par les œuvres de Balzac, de Flaubert et de Zola, justement. En fait, c'est surtout l'esthétique du réalisme et du naturalisme à la Zola qui en sont arrivés à un certain point d'épuisement. Donc, la question qui se posait et que posent plusieurs écrivains dans leur thème, c'est qu'est-ce qu'on fait après Balzac et Zola?
Effectivement.
C'est une question qui se pose encore. Ce sont des œuvres tellement monumentales, tellement totalisantes, qui représentent la société, les individus les plus divers dans leurs moindres détails, leurs moindres relations, leurs moindres aspirations. Donc, qu'est-ce qu'on fait après ces œuvres aussi monumentales? Ils ont tellement poussé le roman à la limite de ses possibilités, tellement fait des choses extrêmes, qu'on a l'impression qu'on ne pourra jamais aller plus loin qu'eux. Donc, c'est un sentiment qu'on retrouve exprimé dans toutes sortes de discours à l'époque. Et on a l'impression que le roman ne pourra pas faire mieux que se répéter, que refaire en plus petit que ce qu'il a déjà fait. Donc, c'est ça qui amène cette espèce de crise qui nous intéresse aujourd'hui.
Donc, il y a une question sur le renouvellement de l'art romanesque comme tel.
Oui, qui se pose complètement et qui est d'une grande actualité à l'époque et qui fait beaucoup, dont on parle beaucoup. Et cette situation-là va entraîner, premièrement, du côté des critiques littéraires. On va parler des écrivains aussi, mais d'abord, du côté des critiques littéraires, tout un questionnement. Les critiques littéraires vont être très actifs à l'époque pour réfléchir au roman. Hein, ils vont lancer une grande réflexion sur le genre, les possibilités, dans toutes sortes d'essais. Hein, donc, c'est une époque où on publie beaucoup d'essais sur le roman et dans laquelle paraissent aussi énormément d'enquêtes sur le roman. Donc, c'est quelque chose qui était très populaire et qu'on retrouve en abondance dans plusieurs périodiques, des journaux, périodiques littéraires, mais pas que littéraires, là, vous avez raison. Mm. Donc, un journaliste qui envoie une enquête à des écrivains et qui pose toutes sortes de questions sur le roman. Qu'est-ce que le roman pour vous? Comment le définissez-vous? Enfantez-vous dans la douleur? On sort toutes sortes de questions dans des périodiques qui sont amusants à revisiter. Mais donc, il y en a eu vraiment beaucoup à l'époque. Donc ça, c'est du côté des critiques, donc une réflexion qui est faite et qui est très active. Et du côté des écrivains, maintenant... Mm-hmm. Donc, cette époque de la crise du roman va être une époque où beaucoup d'écrivains vont se livrer à un travail d'exploration formelle. Donc, la fin du 19e siècle jusqu'au début du 20e siècle, ça va être une période au cours de laquelle vont paraître plusieurs petits livres tout à fait inclassables. Donc, c'est une période qui est intéressante pour ça. Il y a quelque chose là, qui cherche sa forme, là, qui essaie de se faire. Les écrivains explorent beaucoup. Donc, des petits livres, je vous dis, inclassables, hein, qui sont pas tout à fait du roman, mais qui sont pas non plus de la poésie, ni de l'essai, ni du théâtre. Hein, donc, des tentatives.
On sort carrément des sentiers battus. On veut
complètement.
Explorer.
Mais en même temps, on sent bien qu'il y a quelque chose de l'héritage du roman, mais qui veut aller ailleurs. Voilà, une exploration, des tentatives. Mm-hmm. Donc, quelques exemples peut-être pour rendre ça un petit peu plus concret.
Oui.
Donc, la soirée avec Monsieur Test de Paul Valéry. Mm-hmm. Donc, Paul Valéry qu'on connaît surtout comme un poète, mais qui a fait des expérimentations narratives lui aussi. Donc, un tout petit texte, la soirée avec Monsieur Test, dans laquelle un narrateur... dans lequel, pardon, donc ce texte, un narrateur raconte sa rencontre avec un personnage qui est tout à fait énigmatique, Monsieur Test, qui, nous dit le narrateur, aurait découvert des lois de l'esprit que nous ignorons. Donc, un texte vraiment à la frontière des réflexions théoriques, de l'essai, vraiment un texte inclassable, mais qui nous raconte une petite soirée en même temps, là, dans un esprit tout à fait réaliste. Un autre exemple, donc, qui est plus connu encore, « Les lauriers sont coupés » d'Édouard Dujardin, qui est une petite œuvre dans laquelle on suit le mouvement des pensées d'un jeune homme au cours de quelques heures seulement.
Connu chez les littéraires, il faut bien
oui,
le dire.
Bien sûr, oui, quand même. Disons, c'est une œuvre qui a eu un grand succès critique aussi. On en a beaucoup parlé dans la critique parce que c'est une œuvre qui est connue pour avoir développé la technique du monologue intérieur, donc, dont on a beaucoup parlé par la suite chez un romancier comme James Joyce, évidemment. Oui. Donc, James Joyce qui a lui-même parlé d'Édouard Dujardin et a dit à quel point son œuvre l'avait est inspiré. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de constater que ces écrivains comme Valéry Dujardin, mais aussi quelqu'un comme Valéry Larbeau, ce sont des écrivains qui ont beaucoup réfléchi sur le roman aussi. Donc, ce sont des écrivains qui ont aussi été des critiques.
Oui.
Donc, je vous parlais de Valéry Larbeau tout à l'heure. Valéry Larbeau, donc, c'est quelqu'un qui a joué un très grand rôle dans l'histoire du roman au début du 20e siècle, comme écrivain, parce qu'il a écrit, mais aussi comme critique et comme commentateur. Donc, on lui doit, entre autres, d'avoir fait connaître Joyce en France. Hein, donc, quelqu'un qui était très à la page des nouveautés, un grand promoteur de la nouveauté littéraire, quelqu'un qui était très attentif aux transformations que subissait le roman à l'époque. Et un autre écrivain qui a joué un grand rôle, à la fois comme écrivain et comme critique, c'est Paul Valéry, dont, si vous voulez bien, on pourrait parler maintenant.
Tout à fait.
Donc, Paul Valéry, je disais, on le connaît comme poète. Hein, c'était un grand admirateur de Rimbaud, de Mallarmé. C'était aussi un ami de Gide. Et il est connu, Valéry, on parle de crise du roman, pour avoir été un des grands critiques du roman.
Un des grands fossoyeurs.
Voilà, très exactement. Et si sa critique du roman est tellement connue, en fait, c'est en grande partie à cause d'André Breton. Donc, c'est André Breton qui a fait connaître cette critique, donc qui est un autre poète. Un autre grand fossoyeur du roman, comme vous disiez. André Breton écrit dans le Manifeste du surréalisme qui paraît en 1924. Pas besoin d'épuration. M. Paul Valéry proposait dernièrement de réunir en anthologie un aussi grand nombre que possible de débuts de romans, de l'insanité desquels il attendait beaucoup. Ça vous donne déjà une idée du temps pour suivre la lecture. Une telle idée fait encore honneur à Paul Valéry qui, naguère, à propos des romans, m'assurait qu'il se refuserait toujours à écrire « La marquise sortit à 5 heures ». Donc, vous aurez reconnu la phrase qu'on cite souvent pour dire que le roman, c'est arbitraire. Voilà. Donc, ce passage du Manifeste du surréalisme a été abondamment cité, commenté et critiqué. On a d'ailleurs accusé Valéry de juger le roman un peu trop rapidement, en poète, finalement. Ce qui est en partie
C'est
en partie vrai. Mais Valéry a quand même mis au jour des arguments intéressants qui ont été repris, d'ailleurs, par des romanciers un petit peu plus tard, au 20e siècle. Ce que Valéry n'aime pas du roman, vraiment, c'est ce qu'il appelle l'arbitraire romanesque. Hein. Le fait que les énoncés d'un roman puissent être interchangeable. Donc, on dit la marquise sortit à 5 heures, mais pourquoi pas à 6?
Pourquoi sortit-elle?
Voilà, donc il y a vraiment quelque chose d'interchangeable là, qui l'agace. Mais ce qui est intéressant de constater, c'est que Valéry reconnaît d'emblée que sa critique du roman, au fond, c'est une critique de la vie elle-même. Et il le dit lui-même en ces termes, c'est la vie qui est arbitraire, qui est elle-même faite de choses qui auraient pu ne pas être ou qui auraient pu être différentes. Donc, le défaut du roman, ça devient de reproduire l'arbitraire de la vie, alors que la poésie, elle, chercherait plutôt à s'en éloigner. Donc, ce qui est une réflexion qui, une fois qu'on la remet en contexte comme ça, devient beaucoup plus vaste, en fait, et beaucoup moins réductrice que ce qui pourrait paraître. Valéry préfère vraiment la poésie au roman, et ça, c'est quelque chose qui revient souvent dans ses textes, parce qu'elle engage le corps, hein, vraiment littéralement, parce qu'elle engage le corps, les sensations et des émotions qui vont être vécues vraiment physiologiquement. Valéry va dire que pour comprendre un poème, parce que le langage du poème est imagé, parce qu'il est différent du langage courant, on n'a pas le choix de se l'approprier. On n'a pas le choix de construire une vision particulière de ce qu'on lit. Hein, parce qu'un poème, ça ne veut rien dire en particulier. Hein, donc, on ne peut pas l'échanger contre une pensée ou une idée. Hein, je suis obligée de donner moi-même du sens au poème que je lis, de lui donner une forme en moi-même. Hein. Donc, il y a un travail d'appropriation sensible, de transformation que Valéry aime particulièrement dans la poésie et qui manque au roman, selon lui. Pour Valéry, le roman est un peu gratuit, c'est-à-dire qu'il nous offre un tableau tout fait de la réalité.
Avec un surplus de sens, à la limite.
Oui, ce qui est pour lui un surplus, dans la mesure où c'est gratuit, en fait, et puis c'est reproductible à l'infini.
Voilà.
Donc, il y a un côté, je disais reproductible, il y a un côté trompe-l'œil, il y a un côté illusion que Valéry n'aime pas dans le roman. Il écrit par ailleurs, je le cite, « Quelle confusion d'idées cache des locutions comme roman psychologique, vérité de caractère. Pourquoi ne pas parler du système nerveux de la Joconde ou du foie de la Vénus de Milo? » Donc, citation qui est un petit peu ludique. Je vous laisse, si vous voulez bien, Martin, nous lire un extrait d'un petit texte de Valéry qui résume l'essentiel de sa critique du roman.
Oui, certainement. « Tout genre littéraire naissant de quelque usage particulier du discours, le roman s'est abusé du pouvoir immédiat et significatif de la parole. » Pour nous communiquer une ou plusieurs vies imaginaires dont il institue les personnages, fixe le temps et le lieu, énonce les incidents, qu'il enchaîne par une ombre de causalité plus ou moins suffisante. Tandis que le poème met en jeu directement notre organisme et a pour limite le chant, qui est un exercice de liaison exacte et suivi entre l'ouïe, la forme de la voix et l'expression articulée, le roman veut exciter et soutenir en nous cette attente générale et irrégulière qui est notre attente des événements réels. L'art du conteur imite leurs bizarres déductions ou leurs séquences ordinaires. Et tandis que le monde du poème est essentiellement fermé et complet en lui-même, étant le système pur des ornements et des chances du langage, l'univers du roman, même du fantastique, se relie au monde réel comme le trompe-l'œil se raccorde aux choses tangibles parmi lesquelles un spectateur va et vient. L'apparence de vie et de vérité, qui est l'objet des calculs et des ambitions du romancier, tient à l'introduction incessante d'observations, c'est-à-dire d'éléments reconnaissables qu'il incorpore à son dessin. Une trame de détails véritables et arbitraires raccorde l'existence réelle du lecteur aux feintes existences des personnages. D'où ces simulacres, prennent assez souvent d'étranges puissances de vie qui les rendent comparables dans nos pensées aux personnes authentiques. Nous leur prêtons, sans le savoir, tous les humains qui sont en nous, car notre faculté de vivre implique celle de faire vivre. Tant nous leur prêtons, tant vaut l'œuvre. Il ne doit point y avoir de différence essentielle entre le roman et le récit naturel des choses que nous avons vues et entendues. Ni rythme, ni symétrie, ni figure, ni forme, ni même de composition déterminée ne lui sont imposées. Une seule loi, mais sous peine de la mort, il faut, et d'ailleurs il suffit, que la suite nous entraîne et même nous aspire vers une fin, qui peut être l'illusion d'avoir vécu violemment ou profondément une aventure, ou bien celle de la connaissance précise d'individus inventés. Il est remarquable, on le montrerait aisément par l'exemple des romans populaires, qu'un ensemble d'indications toutes insignifiantes et comme nulles une à une, puisqu'on peut les transformer une à une en d'autres d'égale facilité, produisent l'intérêt passionné et l'effet de la vie. Il n'en faut rien conclure contre le roman, mais tout au plus accuser quelque peu la vie, qui se trouve une somme parfaitement réelle de choses dont les unes sont vaines et les autres imaginaires. Alors, Catherine Gosselin, un des textes qui a fortement marqué la période de la crise du roman, c'est le roman d'aventure de Jacques Rivière, paru en 1913. Ce texte est important parce que, d'une part, il prend acte d'une crise dans le roman, et d'autre part, il propose une voie de renouvellement possible, apte à sortir le roman de cette crise.
Oui, tout à fait. C'est un texte qui est vraiment très intéressant pour plusieurs raisons, là, vous venez de le dire. Peut-être avant d'en parler, dire quelques mots, hein, savoir qui est Jacques Rivière. Jacques Rivière, c'est un écrivain et un critique littéraire français. C'est un contemporain de André Gide et Paul Valéry. Il est un petit peu plus jeune, mais un contemporain. Il est aussi très connu pour avoir été l'ami d'Alain Fournier, l'auteur du oui. Grand Maulne, roman qui est paru en 1913.
Et un des correspondants importants de Proust aussi.
Tout à fait, tout à fait. Vous avez raison de le mentionner. C'est une correspondance qui est très étudiée et qui est très intéressante pour plusieurs raisons. Ce sera pour une autre émission.
Oui.
Donc, je vous disais que Jacques Rivière est également connu comme écrivain et comme critique. Donc, comme écrivain, il a écrit un roman qui s'intitule « Aimé », le prénom féminin. Donc, il est paru en 1922.
Oui.
C'est le seul roman qu'il a fait paraître. Il a surtout travaillé comme critique littéraire. Il a été secrétaire de rédaction, puis directeur de la Nouvelle Revue française chez Gallimard de 1911 jusqu'à sa mort en 1925. Pendant l'époque où il a occupé ses fonctions, il a publié de nombreuses critiques littéraires qui nous apparaissent encore aujourd'hui là, d'une grande perspicacité,
oui.
qui sont encore très, très actuelles,
oui.
et très intéressantes à lire. Et le texte qui va nous intéresser aujourd'hui, vous le disiez, c'est le roman d'aventure qui est paru en 1913, qui s'inscrit tout à fait dans la période qui nous intéresse. Le roman d'aventure, c'est un essai sur le roman, sur la situation actuelle du roman, au moment où Rivière écrit en 1913. Dans cet essai, vous le disiez, Rivière en appelle à un renouvellement, une transformation de la forme romanesque. Et pour cette transformation, il propose le modèle du roman d'aventure sur le modèle essentiellement du roman anglais du 18e et du 19e siècle.
C'est assez curieux comme position, mais vous allez nous en parler davantage parce qu'il faut entendre aventure d'une certaine manière.
Oui, on va en parler. Ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est que le roman d'aventure est d'abord et avant tout une critique de la littérature symboliste française.
Oui.
Donc là, ça aide à comprendre un petit peu la référence qui est faite au roman anglais. Donc, il y a vraiment une critique, et puis ça vient en premier lieu dans l'essai, qui est adressée au symbolisme. Le symbolisme, on sait qu'il est une esthétique qui est essentiellement poétique au départ, mais qui a énormément mm-hmm. influencé l'ensemble des lettres à la fin du 19e siècle. Dans le roman d'aventure, Rivière commence par présenter le symbolisme comme un art d'extrême conscience. Donc, il en parle comme d'un art extrêmement analytique. Et si vous voulez bien, Martin, on va vous écouter nous en lire un extrait dans lequel, justement, Rivière nous expose sa critique du symbolisme.
D'accord. Allons-y. Les symbolistes ne connaissent que des plaisirs de gens fatigués. Il venait au bout d'un siècle où l'on avait beaucoup travaillé. Ils vivaient dans une atmosphère de fin de journée. Le monde s'était embué autour d'eux, comme au-dessus d'une usine le ciel du soir est terni de fumée. Il s'était usé, il avait pris peu à peu une sorte de faiblesse et d'idéalité. Il avait fini par être si mince et si précaire qu'il était rentré dans l'esprit des hommes et qu'il ne vivait plus que là, à la façon des songes. Ce n'est pas sans raison que le symbolisme a été rattaché à la philosophie idéaliste. Vraiment, pour cette génération, les choses avaient perdu leur réalité. Tout était devenu mental. On était au milieu de l'univers comme parfois, après un grand effort cérébral, le soir, dans la chambre de travail doucement éclairée, du fond d'un fauteuil, on voit les objets s'affaiblir, s'en aller, se reculer, dans une sorte de profondeur qui semble ne plus être que celle de la pensée elle-même. Le monde sensible s'était réduit en une tapisserie légendaire, ornée de motifs noblement fantastiques, et qui semblait tendu sur les parois intérieures du cerveau. Les gens qui vivaient au milieu de ce rêve, naturellement, ne pouvaient goûter que des plaisirs tout idéaux. Ils s'enfermaient avec leur esprit et s'amusaient à en toucher du doigt un à un tous les bibelots, à les déplacer, puis à les ranger de nouveau. Leur présent n'étant que le terme d'un long passé, avant tout, ils aimaient à se souvenir. Ils s'occupaient à tisonner dans leur mémoire et, laissant le ciel couvert s'appuyer aux vitres, ils s'émerveillaient en silence avec une gaieté timide des petites flammes rallumées. Nous connaissons aujourd'hui des plaisirs plus violents et plus allègres. Tous, ils sont contenus dans le plaisir de vivre. Nous sommes des gens pour qui s'est réveillée la nouveauté de vivre. Sur l'obscurité et l'ennui où le 19e siècle s'est achevé, un petit vent aigre a soufflé tout à coup, dispersant les rêves qui nous entêtaient. Nous nous sommes retrouvés dehors et debout, bien d'aplomb, bien clair, bien contents d'y être encore. Nous vivons maintenant dans un présent tout débarbouillé de son passé, tout gagné par l'avenir. C'est le matin, encore une fois. Tout recommence. Nous avons été mystérieusement rajeunis. Cette soudaine jeunesse nous rend délicieux tous nos contacts avec le monde. Il nous suffit d'aller devant nous pour goûter des plaisirs, plaisir d'être au milieu des événements, plaisir d'être au milieu des hommes, plaisir d'abord d'être quelqu'un à qui quelque chose arrive.
Vous avez terminé votre lecture d'un extrait du roman d'aventure de Jacques Rivière, Martin Robitaille, en disant « plaisir d'être quelqu'un à qui quelque chose arrive ».
Oui.
Donc, il est important de préciser, pour continuer, que l'aventure dont parle Rivière, c'est pas tant une aventure qui est thématique que narrative. Donc, je m'explique un petit peu. Autrement dit, ce que Rivière met de l'avant, ce qu'il propose pour le roman, c'est pas tellement de raconter des aventures que de développer une manière de raconter qui soit en elle-même une aventure, hein, que l'écriture elle-même...
L'écriture d'une aventure.
Soit une aventure.
Voilà, une aventure. Tout à fait. Ce qui est étonnant dans ce texte de Rivière, c'est que il va comparer le créateur à quelqu'un qui avance un peu à l'aveugle. Rivière dit « Le créateur doit marcher parmi ses inventions comme un voyageur entre des taillis. Il n'y voit pas à plus de 4 pas. Mm-hmm. » Il dit encore « Il est en face de son œuvre comme il est en face du monde. » Et que tout lui est ouvert et en même temps un peu obscur et qu'il doit avancer. Donc, un peu en aveugle.
Un peu comme dans un labyrinthe, en
oui,
fait. Le narrateur avance et puis il ne sait pas où s'en va l'action.
Alors, ce qui est curieux, c'est que c'est, pour un romancier, c'est effectivement souvent ce qui arrive, je pense. Mais Proust, à la même époque ou un peu avant, va dire, pour sa part, qu'un romancier doit absolument découvrir les lois de son univers avant de commencer à créer.
Oui.
Exactement comme un physicien doit découvrir des lois pour ensuite expliquer le monde, donner à voir cet univers de plus. Or, nous sommes là bien entre deux tensions, c'est-à-dire à la fois avoir une idée préconçue de l'univers qu'on veut donner à voir et en même temps avancer à l'aveugle. C'est un peu paradoxal.
Oui, et ce que vous dites, en fait, nous fait penser au fait que Proust, effectivement, vous avez raison de le souligner, d'une part, en fait, va faire, d'une certaine manière, ce que Rivière prône,
oui.
C'est ce qu'il propose, et en même temps, il va réussir à faire tout autre chose.
Exactement.
Et à intégrer une tradition qui, sans être symboliste, va être plus analytique. Et c'est toute la force, en fait, de l'œuvre de Proust,
oui.
que d'arriver à tenir ensemble des traditions, des esthétiques qui sont contradictoires.
Oui, et, ce qui en fait une des grandes œuvres du 20e siècle.
Oui, oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, ce qui m'amène à dire que l'intérêt du texte de Rivière, en fait, c'est pas tant qu'il annonce l'avenir ou qu'il va résoudre le problème du roman. Donc, Rivière fait des propositions, mais évidemment, ça ne va pas résoudre les problèmes du roman. Mais donc, l'intérêt de ce texte, c'est qu'il définit des tensions qu'on retrouve encore aujourd'hui au cœur du problème du roman, de l'esthétique du roman.
Voilà.
D'ailleurs, Michel Raymond, dans son ouvrage « La crise du roman » en 68, disait lui-même que son enquête, sa vaste enquête, visait à mettre en lumière un problème qui était un problème actuel. Donc, les tout premiers mots de Michel Raymond en 68 dans « La crise du roman », je le cite, c'est « La crise du roman est une des préoccupations littéraires de notre temps ». Donc, c'est vraiment, il remonte au tournant du 20e siècle, mais c'est vraiment pour mettre en lumière un problème qui est contemporain. Si vous voulez bien, je vais vous lire un extrait de la conclusion de son ouvrage. « Il est devenu banal de parler d'une crise du roman. Oui, et pourtant, on continue d'en parler, et souvent dans des termes bien proches de ceux que nous avons rencontrés au cours de notre étude. L'inquiétude sur les destinées du genre, les recherches qu'elle suscite pour essayer de le sortir de l'impasse, les commentaires de plus en plus nombreux et souvent, il faut le dire, de plus en plus ingénieux, qui accompagnent l'apparition des proclamations théoriques aussi bien que des œuvres nouvelles, déclenchent à nouveau une effervescence de débat que, faute de mieux, il faut bien continuer d'appeler la crise du roman. Le nouveau roman est-il la fin d'un genre ou constitue-t-il les prodromes d'un renouveau? Cette question, que l'on voit souvent posée, n'est pas nouvelle. Ce qui est nouveau, en revanche, c'est une sorte d'installation dans un état de crise. À côté des romans de consommation, il y a place, de plus en plus, pour un roman défini comme « recherche », qui est en passe de devenir une institution. Il y a beaucoup d'imitateurs et de suiveurs parmi ces chercheurs, et ils encombrent un peu le laboratoire. Mais il reste qu'au point où en est arrivé le roman, et dans l'attente d'un nouveau Proust, ce qu'il peut sans doute faire de mieux, c'est d'être en crise. Suivre les débats de jadis nous a paru la meilleure façon d'aborder les plus récents. Donc, on a entendu Michel Raymond nous dire qu'en 1968, les débats sur la crise du roman sont des débats récents. On est aujourd'hui en 2015. Martin Robitaille, peut-être une question que j'adresserais aux romanciers. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2015, la crise du roman, c'est encore un débat qui vous semble récent ou d'une grande actualité?
Toujours. Je pense que le roman arrivera toujours à être en crise et à dépasser ses crises au terme de quelques décennies et de renouveau. Et c'est un roman multiforme, protéiforme, c'est un super genre et ça fait partie de ses grandes qualités, cette tension, cette crise permanente. Alors, mais nous pourrons peut-être en reparler lors d'une autre émission de la crise actuelle 2015 du roman.
Avec grand plaisir.
Merci.
Au revoir.
Parking Nomade.